إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous arrivons à la dernière partie du livre. النقطة السابعة, le septième grand chapitre, grand point. Al-Khatima, donc c'est la fin du livre. وفيها كلمات مضيئة. Dans cette fin, on va retrouver des paroles qui éclairent, qui sont des lumières. مر علينا أيها الأحبة في هذه الجولة المختصرة تقريرات مهمة يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها لزوم ما دلت عليه من التمسك بالأمر العتيق. Donc nous avons vu précédemment, donc le cheikh dit hein, mes bien-aimés, dans ces chapitres, dans ces cours, dans ce cours, plusieurs citations importantes et textes importants dont il est un devoir, une obligation pour chaque personne attachée fermement à la survie de sa propre personne, à sauver sa personne et de l'éloigner de toute déviation, de tout mal, d'être attaché fermement à la religion antique, ce sur quoi elle était le premier jour. L'atir, l'antique, c'est l'ancien, l'ancien, à ses débuts. Tariqati salafi l'ummati as-salih, as-salih. C'est la voie, la méthodologie, le chemin des prédécesseurs, des pieux prédécesseurs de cette communauté. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ça c'est la fin de la sourate Al-Kahf, la caverne. Dans le sens du verset, dans le sens du verset, que celui qui espère la rencontre de son Seigneur accomplissent des bonnes œuvres, des bonnes actions, et qu'il n'associe rien, personne, dans son adoration à son Seigneur, lorsqu'il adore son Seigneur. Donc, dans ce verset, on retrouve bien les conditions de validité de l'œuvre. Que cette œuvre soit bonne, c'est-à-dire qu'elle soit sur la vérité, en conformité avec la tradition, les enseignements, la voie du prophète alayhi salatu wa salam. Et que cette œuvre, elle soit accomplie sincèrement pour Allah. Il n'associe rien, personne à Allah dans son œuvre, dans son adoration. Donc on retrouve dans ce verset, d'accord, les conditions de validité hein, de l'œuvre. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. C'est pour cela que le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, ce grand imam, hein, en parlant de ce verset, il dit qu'Allah n'accepte une œuvre, dans le sens de sa parole, qu'Allah n'accepte une œuvre que si elle est bonne, c'est-à-dire qu'elle est véritable, authentique, en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'elle soit accomplie sincèrement, exclusivement rendue à Allah عز وجل. وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dans le sens du verset, certainement il vous a été donné dans le messager d'Allah un très bon exemple à suivre, à prendre pour celui, pour toute personne qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle abondamment beaucoup Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc, dans ce verset, il est bien explicite bien clair que le prophète alayhi salatu wa salam, Allah tabaraka wa ta'ala fait de lui un exemple pour toute la communauté, pour tout le monde, l'exemple à suivre dans tous les domaines, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ce n'est pas une histoire seulement de prétention. On aime le prophète, on aime le prophète, on aime le prophète, de manifester cela dans les rues, en criant fort, on fait tout cela pour le prophète, puis on oublie le prophète dans ses enseignements. On oublie le prophète dans sa manière de pratiquer la religion. On oublie le prophète dans la véritable compréhension de la religion. On oublie le prophète dans toutes les recommandations et les ordres qu'il nous a donnés. Puis ça prétend aimer le prophète, alayhi salatu wassalam. Comment quelqu'un qui dit il aime le prophète en sallam, puis tu le vois, il se moque de la barbe. Alors que la même personne, tu lui demandes, le prophète était barbu ou pas? Il te répondra quoi? Tout le monde le sait. Le prophète avait une barbe. Alors pourquoi tu te moques de celui qui porte la barbe? Puis tu prétends l'amour du prophète en sallam. Le prophète en sallam portait des vêtements au-dessus de ses chevilles, jusqu'à même à mi-mollet. Il l'a fait lui-même. Puisque les compagnons nous ont décrit le prophète en sallam. Un portrait physique, le comportement, comment était le prophète en sallam, rien n'était délaissé. Ils nous ont tout montré sur le prophète alayhi sallam. On sait comment était le prophète en sallam dans sa vie intime, avec sa famille, avec ses compagnons, avec ses proches. On sait le prophète en sallam comment il était dans la ville, comment il était en voyage, en temps de paix, en temps de guerre. On connaît tout du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le sait celui qui le sait et il ignore celui qui l'ignore. Mais celui qui recherche, il va trouver. Parce que les compagnons dans leur anhum n'ont rien laissé. Ils nous ont décrit convenablement comment était le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, personne ne dit le contraire. Tout le monde sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait la barbe. Et il l'a demandé. Il levait ses vêtements. Et il l'a demandé aux hommes de sa communauté. Donc pourquoi ils viennent se moquer de celui qui obéit et qui prend comme exemple le meilleur des hommes? Alayhi salatu wa salam. Donc ça ne sert à rien de parler avec la langue si dans la vie de tous les jours, ça ne se reflète pas. On ne voit pas le résultat de ces propos. Ils viennent à vouloir forcer les gens à faire de l'interdit, à innover. Il faut fêter la naissance du prophète en sallam. Ceux qui ne le font pas, c'est qu'ils ne l'aiment pas. Alors qu'au même moment, eux-mêmes, ils reconnaissent. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a aucun texte qui vient prouver ce qu'ils font. Ils reconnaissent que jamais le prophète ne l'a fait. Jamais ses compagnons l'ont fait. Jamais les tabi'in ils l'ont fait. Jamais les atba' tabi'in ils l'ont fait. Ils n'ont pas fait, on ne fait pas. Pourquoi vous dites qu'on n'est pas le prophète? Vous allez dire de la même chose sur les compagnons et les tabi'in et les atba' tabi'in qui n'ont jamais connu qu'est-ce que c'est fêter la naissance de quelqu'un, même pas celle du prophète alayhi salatu wassalam. À ces gens-là, la parole c'est facile. Mais on vérifie. Il y a à l'épreuve, c'est là qu'on voit. C'est comme dans un examen. Tu as révisé? Oui, j'ai révisé. Et toi? J'ai révisé. Le résultat, il a 20 sur 20, il a 0 sur 20. Il peut dire ce qu'il veut. Il n'a pas révisé. N'est-ce pas? Mais avant ça, il pouvait le prétendre. Tant qu'il n'y avait pas d'examen. Tant qu'il n'y avait pas d'examen, il pouvait dire ce qu'il voulait. Mais à l'examen, c'est là qu'on voit. Et l'examen, c'est « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » Dit, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Car il est et le pardonneur et le miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهنا أزيد على ما سبق نقله عن الأئمة من حضهم وحثهم وأمرهم بلزوم طريقة السلف الصالح كلمات نيرات مضيئة نذكر بها إذ الذكرى تنفع المؤمنين. Et là, nous allons, par rapport à ce qui a déjà été cité comme citation, comme texte auparavant, et comme parole d'imam de l'islam dans l'encouragement et l'ordre d'être rattaché, de se cramponner à la voie, à la méthodologie et le chemin des pieux prédécesseurs, nous allons rajouter à cela quelques paroles qui vont nous éclairer. Et ce, là-dedans, il y a un rappel, car le rappel est bénéfique, utile pour les croyants. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » Et rappel, dans le sens du verset, et rappel, car le rappel est bénéfique pour les croyants. Les gens sont amenés à être dans la souciance. Les gens sont amenés à oublier. Et tout homme a une part d'oubli. C'est Allah tabaraka wa ta'ala a décrété qu'on est touché par l'oubli. Et comme un des salafs disait, si les gens n'oubliaient pas, ils seraient tous savants. Subhanallah. Si tu devais te rappeler de tout ce que tu entends et tu lis, bah, tout le monde serait savant. Subhanallah. Et le savant, c'est celui qui s'adonne à l'étude et à la révision. Et à la répétition pour que ça reste ancré en lui, pour qu'il puisse le rappeler quand il en a besoin. Et donc, on est tous touchés par l'oubli. Et il y a la part d'insouciance. Donc, le rappel est bénéfique. Et même dans l'oubli, il y a du bien. Imaginez quelqu'un, il se rappelle de toutes les souffrances, de tout... les malheurs qu'ils ont pu le toucher, de toutes les pertes de personnes, et ainsi de suite, en détail, à chaque fois, ils s'en rappellent, comme si cela venait juste d'arriver. Non, donc, là aussi, dedans, il y a, et dans tout, il y a une sagesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il est même rapporté que Adam, alayhi salam, le jour où il a oublié, qu'il a fait don d'une partie de sa vie. Il a fait un don. Adam alayhi salam, il a donné quelques années à un de ses descendants, à Daoud, le prophète David alayhi salam. Lorsqu'il a vu que Daoud, il lui était écrit de ne pas vivre longtemps, il a donné une partie de sa vie pour Daoud alayhi salam. Le jour où l'ange vient pour lui dire qu'il va lui prendre son âme, il lui dit que l'heure n'est pas encore arrivée, qu'il lui était écrit de vivre 1000 ans. Il me dit, as-tu oublié le jour où t'as donné 40 ans de ta vie à Daoud alayhi salam, Adam a oublié et depuis sa descendance oublie. Et depuis sa descendance oublie. Parmi ces paroles, ces citations, awwalan, premièrement, sa'ala ahadu ummal al-imam Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullahu ta'ala 'an al-ahwa. Un des gouvernants, un des représentants, Al-Ummal, ici, ce n'est pas les travailleurs, c'est aussi les travailleurs, c'est ceux qui travaillent. Mais ici, c'est le pluriel de Amil, qui veut dire le gouverneur, le représentant, celui qui gouverne une partie de l'État. D'accord ? C'est comme, aujourd'hui, on dirait un préfet. D'accord ? Un préfet qui est le responsable, l'autorité d'un territoire. Donc, un des représentants de l'imam, du calife, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullahu ta'ala. C'est un des imams parmi les tabi'in. Un des imams parmi les tabi'in qui avait de la science. Omar ibn Aziz était un imam parmi les tabi'in. On a beaucoup, on rappelle souvent ses paroles dans le suivi de la sunna, l'attachement à la sunna et le combat contre les innovations et toute nouveauté dans la religion. Et il fut un des califes parmi les califes des Omeyyades, min bani Umayya, rahimallah al-jami'a. Il y en a qui le nomment le cinquième calife bien guidé. Vous l'avez peut-être déjà entendu, ce genre de phrase. Il y a une erreur là-dedans. Il y a même une accusation à l'encontre de qui? le premier, Muawiyah, radiallahu anhu. Donc il y a une erreur. Et Muawiyah, il ne fait aucun doute qu'il est bien meilleur et bien plus méritant que Omar ibn Abdel Aziz. Pourquoi ? En premier lieu, c'est un compagnon. Et un moment qu'il a passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais quelqu'un qui vient après ne pourra l'atteindre, son degré. Rien que le temps qu'il a passé avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il écrivait le wahi. Le prophète sallam récitait le Coran et lui, il l'écrivait. Et aussi, hein, on l'appelle l'oncle maternel des musulmans, puisqu'il est marié, il est le frère d'une des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Hein, sa sœur, il a une sœur qui est la mère des croyants. Donc de fait, de faire ce genre d'allusion, et ça c'est parmi les discernements qu'Allah a donné aux savants de l'islam, à ces savants de la sunna, que dans une phrase que beaucoup de gens ne verront rien, eux ils vont te dire là-dedans il y a quelque chose qui ne va pas. Subhanallah. Pourquoi il y en a qui en sont arrivés à dire cette phrase-là? Pourquoi ils ont dit le cinquième? Alors que Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, ce grand homme qui était un homme pieux et un savant parmi les imams, mais ce n'est pas lui qui est venu juste après les quatre califes. Il y a eu des califes entre eux. Hein, c'est pour dire qu'il y en a qui ne reconnaissent pas, ou qui dénigrent, ou qui parlent en mal, ou qui critiquent Muawiyah radiallahu anhu. Donc, Omar ibn Abdel Aziz, c'est un descendant du côté maternel de sa maman, de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et il prenait souvent exemple sur Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. C'est connu dans sa biographie. Donc, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, un de ses représentants, donc un gouvernant qui représentait Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, l'a questionné sur les passions, les innovations, les nouveautés dans la religion. Et Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, lui a répondu en écrivant. Et comme je vous ai dit, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, c'est un tabi'i. C'est-à-dire qu'il a vu des compagnons. Il a rencontré surtout les derniers des compagnons. Et même qu'il y a un récit de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui a fait les éloges de Omar ibn Abdel Aziz dans sa jeunesse. En disant, il a dit, radiallahu anhu, si quelqu'un veut voir celui dont la prière ressemble plus à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il regarde la prière de ce jeune homme, en parlant de Omar ibn Abdel Aziz. Hein, si quelqu'un a une prière qui ressemble plus à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il regarde la prière de ce jeune homme. Il faisait allusion à Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala. Donc Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, il écrit en réponse à cette question. أما بعد après ceci فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى ف فَلَئِنْ كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ لَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهَا بِمَا يَكْفِي وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ مُقَصِّرٌ وَمَا فَوْقَهُمْ مُحَصِّرٌ لَقَدْ قَصَّرَ دُونَهُمْ أَقْوَامٌ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ آخَرُونَ فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. Donc, vous voyez ces paroles d'un grand imam qui est Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah. Lorsque cet homme le questionna sur les passions, les innovations, ce que les gens ont inventé, il dit après ceci, je te recommande la crainte et la piété envers Allah, Azza wa Jal, et de te contenter de son ordre. C'est la véritable économie de se contenter de ce qui est demandé, ordonné, ni plus ni moins. Et de suivre sa voie, la voie d'Allah, Azza wa Jal, qui l'ordonne à ses serviteurs de suivre, d'entreprendre la voie de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser ce qui a été inventé après lui, après le prophète alayhi salatu wa salam. Donc l'importance, hein, en arabe, des fois il y a des mots, il n'y a que les voyelles, les petites voyelles qui changent. L'écriture du mot, c'est la même. Là, bon, là, ils ont mis les petites voyelles. Mais comme je vous ai dit, un des problèmes lorsqu'il y a les voyelles, c'est lorsqu'il y a une erreur de frappe. Donc celui qui ne fait que lire ce qu'il voit, il va lire avec cette erreur-là. Bon, là, il n'y a pas d'erreur. Mais regardez, al-muhadithoun. Quelqu'un pourrait le dire comment ? Al-muhadithoun. Al-muhadith, c'est le savant dans le hadith. Ce qui rapporte le hadith. Donc, et al-muhdithun, l'écriture du mot, c'est la même. C'est dans la lecture qui ne sera pas pareille. Alors, les petites voyelles, c'est là où il y a un changement. Al-muhdithun, ceux qui inventent dans la religion. Al-muhadithun, c'est ceux qui rapportent les hadiths du prophète, alayhi wa sallam. Les savants dans le hadith du prophète, alayhi salatu wa sallam. L'importance, donc, hein. Mais là, par exemple, s'il n'y avait pas les petites voyelles, eh bien, en lisant, selon la place du mot dans la phrase, on sait c'est quel mot. Il ne demande pas de délaisser les ulama du hadith. Hein, on le sait. Hein, d'accord ? Le contexte, hein, nous prouve que c'est ce mot, c'est cette lecture-là et non pas l'autre. Ça, c'est quelqu'un qui a ouvert un livre de hadith. Et donc, il lit le chapitre. Et il est dans le chapitre qui s'appelle Fadlu. Chapitre qui parle de Hilaqu al-Dhikr, les cercles de rappel, les cercles de rappel d'étude. Hilaq, c'est le pluriel de Halqa. Halqa, c'est un cercle, hein, c'est-à-dire les assises d'apprentissage, d'étude de la religion. Comment il l'a lu, lui? Donc, c'était Bab Hilaqi al-Dhikr, le chapitre des cercles d'études. Lui, il voit, il n'y a pas de voyelle, comment il l'a lu? Bab halqi dhaka. Non, chapitre de raser ce qui est autour du sexe. Vous avez vu que ça n'a rien à voir. Voilà comment il l'a. Ça, c'est certains savants, ils le ramènent comme exemple. D'où l'importance de bien savoir. Et combien s'aventure. C'est un problème, ça. Les apprentis, les autodidactes, ceux qui s'en reviennent qu'à leur propre personne, ceux qui se jugent eux-mêmes, c'est eux-mêmes qu'ils se donnent la tesquilla. Je suis capable, ils se notent eux-mêmes. Je vaux combien? Mais vas-y, il va se mettre un 20 sur 20. Subhanallah. Il ne voit rien, il ne voit aucun mal. Il voit le mal que chez les autres. Lui, il ne voit pas, lui. Subhanallah. C'est ma lecture qui est la bonne, c'est ma compréhension qui est la bonne. C'est eux, tous, qui ont mal compris.
Subhanallah.
Et puis s'il lit les textes qui parlent, qu'il arrive que tu te retrouves tout seul, eh bien il va le prendre pour lui-même. Subhanallah. Il va se donner raison. Il va croire, et il y a des fois des jaloux, et ainsi de suite, il va croire que c'est le moment. Que ce n'est que dû à ça. C'est une maladie de se couper des savants et des gens de science, voilà où ça ramène. Et beaucoup de gens se sont égarés à cause de ce problème-là. Un trop grand amour de sa propre personne, qu'on appelle son ego. Et une défense de sa personne disproportionnée. Quelqu'un a le droit de se défendre, mais là non, ça atteint un degré que ça dépasse même la défense de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, des prophètes, des messagers, des compagnons. Subhanallah. Ça, c'est une maladie, c'est un problème. L'isolement, de s'isoler, de croire qu'il n'y a que lui qui a tout compris. Tout le monde est perdu, il n'y a que moi qui est sauvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum » Celui qui dit tous les gens sont perdus, c'est lui le plus perdu d'entre eux. Et dans une lecture, « fa huwa ahlakuhum » C'est lui qui est la cause de leur perte. Subhanallah. Faut faire attention. Genre, non, moi je ne fréquente pas les frères. Mais va fréquenter les murs. Ça te permet d'aller sur 4 minutes. Oui, parce que celui qui se retrouve seul, il finit par parler aux murs. Subhanallah. C'est un problème. Enfin, ça devient du problème mental. C'est psychologique, psychiatrique. On est dépassé. Subhanallah. Enfin, l'humain, de base, de par sa nature, il est sociable. Il a besoin des gens. Chacun a besoin de l'autre. Subhanallah. De le vivre ensemble. Et quelqu'un qui croit qu'il n'y a que lui. On ne parle pas d'un moment où il y a des massacres, des tueries. C'est les troubles totaux. On ne comprend plus rien. À ce moment-là, oui. Dans ces moments précis, il est meilleur pour la personne d'aller dans une vallée, de s'éloigner pour ne pas participer à tout ce qui se passe. Mais que la personne, elle voit tous les jours de sa vie, c'est des moments où il n'a pas à s'asseoir avec les gens, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il a un problème. Hein, une personne, il y a 10 personnes. Il y en a 9, ils n'ont aucun souci entre eux. Lui, il a des soucis avec tous. Au lieu de se dire, c'est en moi qu'il y a un problème, il se dit, non, c'est les 9 qui ont un problème. Et combien sont-ils? Wallahu musta'an. C'est dur. Il faut faire attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la khayra fi mu'minin, la ya'lef wa la yu'lef. Il n'y a pas de bien dans un croyant qui ne sait pas accepter les autres, ni se faire accepter par les autres. Il y a un effort de part et d'autre. Chacun fait un effort. Moi, je fais un effort pour être accepté des autres, et je fais un effort pour accepter les autres. Lui, il croit que c'est le seul qui fait des efforts. Il croit parce que les gens ne lui disent rien qu'il n'a aucun défaut. Il ne sait pas que les gens, par la sagesse, par la pitié, par la clémence, ils ne veulent pas lui faire du mal. Ils ne veulent pas lui dire. Ce n'est pas toute vérité qu'il y a à dire. N'est-ce pas? Ce n'est pas toute chose qui doit être dite et dévoilée. Et lui croit que tant qu'il n'y a rien qui est dit, c'est qu'il est parfait. C'est une personne qui ne se connaît même pas lui-même. Parce que si quelqu'un qui connaît sa propre personne, il ferait attention. Non? Et que dire de s'aventurer dans la religion d'Allah? Plus les gens sont ancrés dans la science, et plus ils ont peur. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il dit, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens? Ils veulent se servir de notre dos comme passerelle au-dessus du feu de l'enfer. Quand les gens posent des questions et ils ne leur répondent pas, ou ils leur répondent, je ne sais pas. Ils veulent à tout prix une réponse. Et d'autres parmi les salafs disaient, il est fou celui qui répond à toutes les questions. Il n'y a qu'un fou pour répondre à toutes les questions. Et lorsqu'il m'a mal, Ahmadullah répond à quelques questions. Il y a beaucoup de questions, il dit la Adri. L'homme, il est étonné. Comment je vais faire quand je vais retourner chez moi? Tu leur enseignes que la adri, c'est nisf al-ilm. C'est la moitié de la science. On ne sait pas, on ne répond pas, on ne s'aventure pas. Subhanallah. C'est dangereux. Dangereux, subhanallah. Donc, la tuzakku anfusakum. Ne vous faites pas vos propres éloges. Huwa a'lamu biman ittaqa. C'est lui qui sait, subhanahu wa ta'ala, qui est le plus pieux. Les gens, vous lisez les sahaba, vous lisez même les prophètes, comment ils avaient peur, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a promis le paradis. leur a promis le paradis. Youssef alayhi salam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir en tant que soumis et ressuscite-moi avec les vertueux. Ibrahim alayhi salam, l'intime d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'on appelle Abul Anbiya, le père des prophètes. Et avec cela, qu'est-ce qu'il dit ? Wala tukhzini yawma yub'athoun. Et ne m'humilie pas le jour où ils seront ressuscités. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni l'argent, ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur, un cœur saint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce qu'Allah lui a promis, lui a donné, subhanahu wa ta'ala, le meilleur des hommes, et Aïcha radhiyallahu anha disait, il répétait souvent, Ya muqallib al-khulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et tu vois des gens aujourd'hui, comme s'ils avaient la garantie, le tampon, comme quoi, ça y est, c'est réglé pour eux. Allah Moussa, nul ne sait sur quoi il va mourir. Comme a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Man kana mustannan, fal yastami man qad mat, fa innal hayy la tu'manu alayhi al-fitna. Celui qui veut suivre, ils suivent ceux qui sont déjà morts, qu'on sait dans sur quoi ils sont morts. Le vivant ne sait pas. Et aujourd'hui il est là, demain on ne sait pas où il sera. Subhanallah. N'est-ce pas que l'homme fait les œuvres des gens du paradis, jusqu'à qu'il y ait entre lui le paradis que la distance d'une coudée. Le livre le précède, il fait l'œuvre des gens de l'enfer, puis il se retrouve dans le feu de l'enfer. Et l'homme fait les œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à qu'il y ait entre lui l'enfer que la distance d'une coudée. Le livre le précède. Il fait l'œuvre des gens du paradis et il entre au paradis. C'est la finalité qui est prise en compte de la personne. La finalité, ce sur quoi il meurt. On demande à Allah une bonne fin et de mourir dans le droit chemin. Enfin, il faut faire attention. Beaucoup de personnes, et ceci, c'est dû à quoi ? Le manque de crainte d'Allah. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la science bénéfique. Car la science bénéfique, elle mène à la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, parmi ses serviteurs, ceux qui ont la crainte d'Allah, réellement, ce sont les savants. Plus tu connais ton Seigneur et plus tu le crains. Quelle est cette science qui t'a pas ramené à la crainte d'Allah, azza wa jal? Et comme disait l'imam Malik, rahimahullah, innama al-ilmu al-khashya. Le savoir, c'est la crainte. La crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Faut faire attention. Beaucoup de gens ont ce problème-là, et s'ils ne le savaient pas, bah, qu'ils apprennent. Les gens en apprenaient auprès des gens de science. Pas seulement pour les écouter, mais pour les regarder. Pour apprendre de leur comportement et leur manière d'être. Ils apprenaient. Voilà comment ils faisaient. Lorsque un des grands élèves de l'imam Malik, rahmahullah, Yahya ibn Yahya, il était chez l'imam Malik. Quand il a fini d'apprendre, l'imam Malik lui a dit, tu peux retourner chez tes proches, dans ta région, tu peux repartir. Il lui a dit, non, je veux encore rester pour apprendre de ton comportement. Et comme il disait, il venait d'abord pour apprendre le comportement, car avec le comportement, ils vont savoir comment étudier et comment être devant le professeur. Lisez les récits des salafs là-dessus. C'était des exemples dans tous les domaines. Il faut faire attention. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ces moyens technologiques qui facilitent certaines choses. Mais dedans, pour certains, c'est un poison. Maintenant, n'importe qui, voilà, il peut se filmer, il peut s'enregistrer en direct et il est écouté dans toute la planète. Subhanallah. Et alors qu'en réalité, il n'a même pas le droit de prendre la parole. Pour lui, c'est une interdiction totale. Que dire de celui dont la place, elle devrait être dans un asile psychiatrique? Wallahi, il y en a, c'est un hôpital, il faut des professionnels de la médecine pour s'en occuper. Tu ne peux rien faire avec. Subhanallah. Faire attention. Et celui qui ignore, il ignore. Si toi-même tu reconnais que tu es ignorant, pourquoi tu prends une place qui n'est pas la tienne? Pourquoi tu prends un statut qui n'est pas le tien? Pourquoi tu te permets ce qui t'est interdit de faire? Pourquoi tu t'obliges ce qu'Allah ne t'a pas obligé? Tu t'imposes ce qu'Allah ne t'a pas imposé. Subhanahu wa ta'ala. Fais attention. Et puis la sincérité, elle est touchée. La sincérité, elle est touchée. Il y a des gens qui apprennent, même de la meilleure manière, mais leur intention, elle n'est pas bonne. Il y en a qui apprennent, c'est pour plus tard pouvoir polémiquer, pour avoir des réponses à des questions, pour discuter, les gens de science, pour montrer qu'ils sont là. Et à chacun son intention. Donc il faut faire attention. Allah nous facilite à tous. Donc, et de délaisser ce que les innovateurs ont inventé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se contenter de ce qui a été laissé comme héritage par le prophète alayhi salatu wa sallam comme enseignement. Attache-toi donc fermement à la sunna, car elle sera une protection pour toi, si Allah le permet. Et sache que lorsque les gens en arrivent à inventer, à innover, il y a dans les textes qui vient contrer cette invention et cette innovation. Car dans la tradition, dans la sunna, sachez que ce sont des enseignements qui ont été enseignés par celui qui sait tout le mal qui se trouve dans son contraire et dans son opposé. Comme erreur, comme déviation, comme folie et comme excès. Donc sois satisfait de ce sur quoi étaient satisfaits les premiers. Al-Qawm ici, c'est-à-dire les premiers. Le prophète, les compagnons, les tabi'in. Les choses sur lesquelles ils ont été satisfaits, contente-toi de cela. Car ils sont les prédécesseurs. Et lorsqu'ils se sont arrêtés, c'est avec sa connaissance qu'ils l'ont fait. Ils ne s'arrêtent qu'avec connaissance. Et avec une clairvoyance qui les a fait arrêter. Et ils étaient bien plus capables de dévoiler que les autres. S'ils avaient voulu, ils auraient pu dévoiler ce qu'ils veulent. Et s'il y avait un bien dedans, ils auraient été les premiers, car ce sont les gens réellement du mérite. Donc, si la guidée, elle se trouve dans ce que vous avez inventé, innové, alors c'est vous les prédécesseurs, parce que vous les avez précédés là-dedans. Vous êtes les premiers à l'avoir fait. On inverse les rôles. Donc ça devient les innovateurs, ça devient des prédécesseurs. Puisque ce sont des choses qu'ils ramènent, et ils en sont les premiers à le ramener. Et si tu viens à dire que cela a été inventé après eux, sache que celui qui a inventé cela, qui a innové cela, il a suivi une voie autre que la leur. Et qu'il s'est contenté et il a été satisfait de sa propre personne. Il s'est suffi de sa propre personne et il n'a pas voulu suivre ceux d'avant lui. Ils ont parlé dans ce qu'il y a suffisance. Et ils ont démontré ce qui est suffisant. Donc tous ceux qui sont en dessous d'eux, de ces premiers, les pieux prédécesseurs, il a été négligent. Il a des manquements. Et celui qui a voulu aller au-dessus d'eux, c'est quelqu'un qui a été dans l'excès et l'exagération. Et eux, ils se trouvent entre ces deux extrêmes. Ils sont sur la guidée droite, le chemin droit. Thanian. Deuxièmement, « Wa qala l'imam Muhammad ibn Muslim al-Zuhri rahimahullah. Kana man madha min ulama'ina yakulun. Al-i'tisamu bis sunnati najah. Wal-ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Fabi'ayshi l'ilmi ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. Ce grand imam Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, a dit: ceux qui nous ont précédés, parmi nos savants, les grands imams, ils disent, ils parlent des tabi'in et des sahaba, l'attachement à la sunna et la survie. C'est comme la parole de l'imam Malik, rahimahullah, quand lorsqu'il a dit: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. La sunna, c'est l'arche de Noé, le grand bateau de Noé, alayhi salam. Il n'y a que ceux, les créatures, parmi les humains et les animaux qui étaient à l'intérieur qui ont survécu. Tout ce qui était en dehors a été noyé par le déluge. Il a péri. Donc il a fait ressembler l'arche de Noé à la sunna du prophète. Tu veux être sauvé? Il faut être attaché fermement à la sunna du prophète. Sinon, tous ceux qui ne sont pas dans la sunna, ils sont noyés. Donc ceux qui nous ont précédés parmi nos savants disaient: s'attacher à la sunna et la survie. Et la science, elle est prise d'une manière rapide. Et comme vous le savez, la science, elle est levée comment? Ce n'est pas qu'Allah, il l'enlève des cœurs des hommes. Ils ont la science et demain ils ne l'ont plus. Mais il prend la vie des savants. De tel savant, tel savant, tel savant, jusqu'à qu'il n'y ait plus de savant. On a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: « Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an » ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Allah ne prend pas la science des poitrines, des cœurs, des hommes, mais il prend la science en prenant la vie de cela, de ces savants, jusqu'à qu'il n'y ait plus de savants. À ce moment-là, les gens prendront comme élite, comme référence religieuse, des ignorants. Ça, c'est la réalité. Même si les gens, ils les considèrent comme savants, ou ils disent, oui, c'est un savant, mais dans la réalité, ce sont des ignorants. Ils prendront à la place des ignorants. Ils seront questionnés. Ils répondront sans silence. Et ainsi, ils s'égareront eux-mêmes et égareront les autres. Tant que la science, elle est là, elle vit, alors la religion et le bien de ce bas monde persistera, continuera. Et avec la levée, le départ de la science, c'est le départ et la fin de tout cela, de la religion et de ce bas monde. Wa qala al-imam Ibn Hibban رحمه الله في مقدمة الصحيح. الإمام ابن حبان رحمه الله il a aussi un recueil de hadith qu'on appelle صحيح ابن حبان. Dans son introduction, il dit: إن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ سروجها ولا تدحض حججها من لزمها عصم ومن خالفها ندم إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل. Ibn Hibban, rahmallah, il dit: dans l'attachement à la sunna, à sa sunna, à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a la paix parfaite et complète. Et il y a tout l'honneur qui est réuni dans la sunna. Les lampes ne sont jamais éteintes. tant qu'il y a la sunna, les lampes, elles sont allumées. Et les preuves, elles sont là. Elles ne disparaissent pas. Celui qui s'y attache sera protégé, sauvé. Et celui qui la contredit le regrettera. Car elle est la forteresse qui protège. Le pilier fort dont le bien est bien apparent et dont la corde est bien solide. Celui qui s'y attache, il aura les honneurs, il sera devant. Et celui qui cherche ou qui va vers le contraire, ce qui contredit la sunna, il sera anéanti, il disparaîtra. Ceux qui s'y attachent, c'est-à-dire convenablement, de la meilleure manière, sont les gens du bonheur, les bienheureux dans l'au-delà. Et ceux qui sont montrés du doigt, ceux qui ont une bonne place auprès des gens dans la vie d'ici-bas. Rabi'an, quatrièmement, wa qala l'imam ibn Qudamah rahimahullah fi dhammi al-muwaswisin. L'imam ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dit dans cet ouvrage dhammu al-muwaswisin wa fi ittiba'i sunnah barakatu muwafaqati al-shara wa ridha al-rabb subhanahu wa ta'ala wa raf'u al-darajat وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. Il dit Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, et dans le suivi de la sunna, dans l'attachement à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il s'y trouve la bénédiction d'être en conformité avec la législation et la satisfaction, l'agrément du Seigneur, glorifié soit-il, exalté soit-il, élevé soit-il, et l'élévation dans les degrés, et le repos du cœur, et l'apaisement du corps, et l'éloignement du diable, et le suivi de la voie droite, du droit chemin. Khamisan, cinquièmement. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى دي أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة ومن قطع عنها أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. Donc l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah dit, les moyens les plus proches ou les chemins les plus proches qui amènent vers Allah Azza wa Jal, c'est d'être attaché, cramponné à la sunna. De rester avec la sunna dans l'apparent et le caché, extérieurement et intérieurement. Et à tout moment, de montrer sa faiblesse, sa pauvreté, ses manquements face à Allah Azza wa Jal. Et le besoin face à Allah Azza wa Jal. Et de chercher dans les paroles et dans les actes que la face d'Allah, l'unique, le seul, subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut atteindre Allah, tabaraka wa ta'ala, si ce n'est par ces trois moyens cités. Et personne n'a été coupé d'Allah, éloigné d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est parce qu'il manque dans son cheminement ces choses, ces trois choses, ou l'une d'entre elles. Sadisème, sixièmement. Wa qala al-imam ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah fi kitabihi fadli ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. L'imam ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, c'est un grand imam, un grand savant, connu alayhi rahmatullah, il est connu pour son commentaire de l'Arba'in al-Nawawiyya. Arba'in al-Nawawiyya, un des plus grands commentaires connus, c'est celui d'Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullah. Il a fait le commentaire des 42 hadiths de Nawawi, il y en a 42 exactement, et il en a rajouté 8. Il en a rajouté 8 qui vont dans les mêmes conditions que Nawawi, rahmatullah, qui était de ramener des hadiths authentiques, généraux, qui touchent pratiquement toute la religion. Lui, il en a rajouté 8, rahmatullah, et il a appelé son livre, c'est quoi le titre déjà ? Jami' al-Ulum wal-Hikam, barakallahu fik. Jami' al-Ulum wal-Hikam de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. C'est le recueil des sciences et des sagesses. Et il a aussi un charh de al-Bukhari, mais il ne l'a pas terminé, qui s'appelle Fathul Bari. Et son titre, il est avant celui de Ibn Hajar. Lui, il a vécu un peu avant Ibn Hajar. Mais il est publié en plusieurs volumes, mais si mes souvenirs sont bons, il l'avait pas terminé. Il l'a appelé aussi pareil, Fathu al-Bari fi Sharhi Sahih al-Bukhari. Et il a donc cet ouvrage, donc il dit dans cet ouvrage, c'est un petit livre, mais qui est d'une très grande importance, qui s'appelle Le mérite de la science des prédécesseurs sur celle de ceux qui sont venus après. Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Et là, il y a une réponse à beaucoup de gens de l'innovation, de la déviation et de l'égarement qui ont prétendu que leur connaissance, elle est meilleure, est plus sage et bien plus grande que celle des salafs. Ça va loin. Les gens, ils en ont arrivé à dire ça. Tellement qu'ils ont parlé, tellement qu'ils ont détaillé, mais qu'avec souvent avec de l'égarement. Mais il y en a, ils pensent que plus tu parles, et plus tu connais. Plus tu écris de volume, et plus cela prouve que tu connais. Ce n'est pas une vraie opinion, ça. Elle est erronée. Les salafs parlaient peu, mais ce sont des paroles qui étaient concentrées, qui comportaient des sagesses et de la connaissance. Et Allah y avait mis de la bénédiction. Et ceux d'après parlaient beaucoup, mais il n'y avait pas de bénédiction dedans. Et ils en sont arrivés à dire quoi ? Que par certains parmi eux disaient, c'est vrai que la science des pieux prédécesseurs, elle est plus sûre. Mais la science de ceux d'après, elle est bien plus sage et bien plus grande. Donc ils disaient quoi ? Ilm al-Salafi, aslamu. Manhaj al-Salafi, aslamu. Wa manhaju al-Khalafi, a'lamu wa ahkam. Il disait la voie, la méthodologie des salafs, elle est plus sûre. Elle est plus préventive, par précaution. Mais sinon, la voie, la méthodologie de ceux d'après, al-Khalaf, ce sont ceux qui sont venus après, il y a bien plus de connaissances dedans et plus de sagesse. Et Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, à maintes reprises, a réfuté ce genre de propos en leur disant, au final, c'est ilm al-salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Ilm al-khalaf, il n'a rien du tout. Il est plus sûr. Et il y a plus de science et il y a plus de sagesse dedans. C'est ilm al-salaf. Donc, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, il a écrit cette risala qui s'appelle Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Et dedans, il dit فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. La meilleure des sciences dans l'explication, l'exégèse, le commentaire du Coran et la signification du hadith des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles concernant ce qui est licite et ce qui est illicite dans le domaine du halal et du haram, c'est ce qui a été rapporté. La meilleure explication qu'on a là-dessus, c'est ce qui a été rapporté des compagnons et des tabi'in et de ceux qui les ont succédés jusqu'à atteindre la période ou l'époque des grands imams de l'islam célèbres et connus qui sont pris comme exemple et sont suivis parmi ceux que nous avons cités, parmi ceux que nous avons cités précédemment. Donc il dit que il a déjà cité des noms de grands imams des premières époques. Puis il dit فضبط ما روي عنهم في ذلك افضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه. Donc de recueillir et d'aller à la quête, à la recherche de ces paroles, de ces citations des sahaba, des tabi'in, des atba'i tabi'in, et de les réunir et de les apprendre et de les comprendre est bien meilleur que tout ce qui a été inventé ou rapporté après eux. Car dans cet élargissement qu'ont fait les gens après, dans la plupart de ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de bien là-dedans. Illa an yakuna sharhan li kalamin yata'allaqu bi kalamihim. Sauf si c'est une explication, un commentaire d'une de leurs paroles des premiers. Wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim fa aktharuhu batil aw mawjud bi awjaz lafdh wa akhsar ibaratin. Na'am. C'est sauté une ligne. Barakallahu fik. Wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim fa aktharuhu batil aw la manfa'ata fi. Et dans ce qu'il a été rapporté de ces gens-là venus après, et qui contredit la parole des premiers, la plupart de ces paroles, c'est que du faux. Et il n'y a aucun bien ni utilité dedans. فَلَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ حَقٍ إِلَّا وَهُوَ فِي كَلَامِهِمْ مَوْجُودٌ بِأَوْجَزِ لَفْظٍ وَأَخْصَرِ عِبَارَةٍ. Et ce qu'on retrouve dans leurs paroles, de ceux venus après, des khalafs, et qui est vrai, donc il y a des paroles, mais qui sont vraies, sachez qu'on va retrouver ces paroles-là chez les premiers. Mais ils sont condensés et résumés. Subhanallah. Ils n'ont rien ramené de nouveau. Si c'est vrai, ils l'ont déjà dit avant. Ils l'ont seulement répété, mais avec leurs phrases à eux, et avec plus de mots. Et on va retrouver le sens chez le premier. ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل الا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن تفهمه وتامله. Et dans ces khalaf, ceux venus après, ce qu'on va trouver comme parole fausse chez eux, sachez qu'en cherchant convenablement chez les paroles des premiers, on trouvera des réfutations et des réponses à ces choses inventées par ces gens-là et le faux qu'ils propagent pour celui qui médite bien les paroles et qui les comprend. وَيُوجَدُ فِي كَلَامِهِمْ مِنَ الْمَعَانِ الْبَدِيعَةِ وَالْمَآخِذِ الدَّقِيقَةِ مَا لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُمْ وَلَا يُلِمُّ بِهِ. Et on trouvera dans leurs paroles, mais il n'y a pas beaucoup de personnes, ce sont les gens de connaissance, de science, qui vont te sortir, te faire découler de leurs paroles ce qu'il y a à faire découler et sortir parmi les sens qui sont précis. فَمَنْ لَمْ يَخُذْ الْعِلْمَ مِنْ كَلَامِهِمْ فَاتَهُ ذَلِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ. Donc celui qui ne prend pas la science d'eux, des premiers, alors celui-là, il sera privé de beaucoup de bien et de tout le bien. مَعَ مَا يَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبَاطِلِ مُتَابَعَةً لِمَنْ تَأْخَرَ عَنْهُمْ. Avec toutes les déviations et les erreurs sur lesquelles vont tomber les gens du fait qu'ils ont suivi ceux qui sont venus après. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من صحيحه. Et celui qui va vouloir compiler, réunir, recueillir les textes, les citations, les paroles des pieux prédécesseurs, il se doit d'être quelqu'un qui a une connaissance dans ce qui est authentique de ce qui est faible, ce qui est à prendre de ce qui est à rejeter. Ce n'est pas tout ce qui est rapporté est vrai. Ce n'est pas tout ce qui est rapporté est authentique. Hein, parce qu'il y a des gens, ils ne font pas de distinction, ils n'ont pas le discernement. Donc il faut être quelqu'un qui a cette connaissance et il a cette capacité de pouvoir faire le tri et de vérifier l'authenticité des paroles. وَذَلِكَ لِمَعْرِفَةِ الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيلِ. Et ceci en ayant la connaissance de la situation des hommes, des narrateurs. Est-ce qu'on prend d'eux ou pas? Est-ce qu'ils ont été critiqués ou pas? Est-ce qu'on leur a fait des éloges ou pas? At-ta'dil, c'est les éloges. On dit qu'un narrateur, il est convenable, il est bien, il est connu pour sa bonne mémorisation, pour sa droiture, pour sa véracité. Al-jarh, c'est la critique. Cette personne est connue pour être un menteur. Cette personne est connue pour quelqu'un qui ne mémorise pas, pour être quelqu'un de pervers, et ainsi de suite. Donc on a al-jarh ou at-ta'dil. Donc il faut que la personne qui veut recueillir, qu'il ait ces bases-là et ces connaissances-là. Wal-ilm, et aussi... Hein, d'avoir cette, c'est une connaissance précise sur les textes même. Est-ce qu'il y a un défaut, une défaillance, une chose qui ne va pas, qui contredit, hein, les textes authentiques de la religion? Donc la personne se doit d'avoir toutes ces connaissances. فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ وَاثِقٍ بِمَا يَنْقُلُهُ مِنْ ذَلِكَ. Celui qui ne connaît pas cela, qui n'a pas ces matières et la maîtrise de ces domaines, hein, ça ne sera pas quelqu'un de confiance dans ce qu'il va transmettre d'eux. Et pour lui, tout va être mélangé entre ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et à notre époque, donc là c'est Al-Hafidh ibn Rajab Al-Hanbal Rahmahullah qui parle. On est au 8e, 9e siècle de l'Égypte. D'accord? Ça fait déjà plusieurs centaines d'années de cela. Il dit, et à notre époque, il convient, ça devient même une obligation de recueillir, de compiler, de réunir les paroles des pieux prédécesseurs qui sont pris comme exemple et qui sont suivis jusqu'à l'époque de Shafi'i. Et l'époque de Ahmed, et l'époque de Ishaq ibn Rahawi, et l'époque de Abi Ubayd al-Qasim ibn Sallam, rahimahumullah, jami'an. وَلْيَكُنِ الْإِنسَانِ عَلَى حَذَرٍ مِمَّا حَدَثَ بَعْدَهُمْ. Et que la personne soit sur ses gardes, sur ce qui a été inventé, ramené après eux. فَإِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَهُمْ حَوَادِثُ كَثِيرًا. Car il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis après eux. Beaucoup de choses inventées. Ici, ça se termine la parole d'Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah. Puis, Cheikh Abdullah al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dit pour terminer, فَاللَّهَ أَسْأَلْ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يُوَفِّقَنَا جَمِيعًا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَى. Et donc, il dit, j'invoque Allah par ses plus beaux noms. Et ça, c'est un des tawassul. Et par ses attributs les plus élevés. Et ça, c'est un des tawassul qui est légiféré et qui est permis d'invoquer Allah par le biais, par l'intermédiaire de ses noms et ses attributs. Comme Allah dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le par le biais de ces noms-là. Ça, c'est un des tawassul qui est permis. Une autre forme de tawassul qui est permise, c'est d'aller voir une personne vivante, que, alhamdoulilah, on a une bonne pensée d'elle, que c'est une personne vertueuse, une bonne personne dans la pratique, une personne pieuse, et on lui demande d'invoquer Allah Azza wa Jal. Comme Omar, radiallahu anhu, l'a fait avec l'Abbas, Ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anhu, lorsque, pour demander la pluie, il a demandé à l'Abbas d'invoquer Allah Azza wa Jal pour leur donner la pluie. Ça, c'est un exemple aussi. Et le troisième, c'est d'invoquer Allah par le biais des bonnes œuvres. Hein, quelqu'un, il a fait une bonne œuvre, et il considère qu'il l'a fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal, il est dans le besoin d'invoquer Allah, et il dit, oh Allah, tel jour, j'ai fait telle œuvre. Si je l'ai fait sincèrement pour toi, alors donne-moi ceci et cela. Comme les trois hommes qui étaient entrés dans, la pluie est tombée, ils sont dans une grotte, il y a un rocher qui est tombé, qui a bloqué l'entrée, qui a fermé l'entrée de la grotte. Et l'un alors a dit quoi? Que chacun se rappelle une bonne œuvre. Et chacun s'est mis à parler d'une bonne œuvre qu'il a faite pour Allah Azza wa Jal, en disant, oh Allah, si je l'ai fait sincèrement pour toi, fais bouger le rocher pour qu'on puisse sortir. Puis le rocher, à chaque fois, il bouge. Et à la troisième personne, quand il a terminé cette dua, le rocher l'a bougé de sorte qu'ils ont pu quitter cette grotte et sortir. Ça aussi, c'est un des moyens. Ce sont les trois moyens reconnus dans le tawassul. Non pas le tawassul, qui est cité par les soufis, par les ahbèches. Ils font du shirk. Et le shirk, ils l'appellent le tawassul. D'accord? Ça, non. Ça, c'est le shirk. Ils l'ont nommé autrement, mensongèrement, pour tromper les gens. Pour tromper les gens. Il y a le tawassul qui est légiféré, et ce que les gens appellent tawassul, qui est en réalité que du chef du polythéisme et de l'association qu'Allah nous en préserve. فَاللَّهَ أَسْأَلْ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يُوَفِّقَنَا جَمِيعًا لِمَا يُحِبُّ أَرْضَاهُ. Donc il invoque Allah par ses plus beaux noms et ses attributs les plus élevés, de nous accorder la réussite et de nous guider vers ce qu'il lui plaît, subhanahu wa ta'ala, et ce qu'il aime. وَنْ يَجْعَلَنَا مُبَارَكِينَ أَيْنَمَا كُنَّا. Et qu'il fasse de nous des gens bénis, là où qu'on est, là où qu'on soit. وَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ. Et qu'il nous raffermisse sur l'islam et la sunnah. وَأَنْ يَقْبِضَنَا إِلَيْهِ غَيْرَ مَفْتُونِينَ. Et lorsqu'il nous prend, il prend nos âmes, tu nous la prends alors qu'on est dans le droit chemin, qu'on n'a pas été touché par les discordes et les troubles et les fitnas. وَأَنْ يُلْحِقَنَا بِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. Et qu'il nous ressuscite et qu'il nous mette avec les vertueux. إِنَّهُ جَوَّادٌ كَرِيمٌ. Car il est le véritable, celui qui donne en abondance. Et il est le bon, subhanahu wa ta'ala, sami'un mujib. Il est celui qui entend et qui répond et qui exauce la demande de ses serviteurs. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Et qu'Allah prie et salue et bénit son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et ceux qui les ont suivis convenablement de la meilleure manière jusqu'au jour de la résurrection. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Et toute la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Subhanakallah wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi Rabbil Alameen.